VOA Afrique, les infos. À Washington, Claire Morin-Gibourg.
Il est 13h à Bamako, 14h à Niamey. Bienvenue dans notre journal d'information. Aujourd'hui, dans l'actualité africaine, au Togo, la campagne électorale a officiellement démarré cette nuit à minuit en vue de la présidentielle du 25 avril qui verra s'affronter principalement le chef de l'État sortant, Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005 et l'opposant Jean-Pierre Fabre. Lors d'un message télévisé, le président de la commission électorale indépendante, Taffa Tabiou, a appelé les candidats et leurs partisans à la tolérance et au respect mutuel. Le Kenya a commencé vendredi à inhumer ses victimes, les victimes du massacre de l'université de Garissa, une semaine après l'attaque, alors que des parents attendent toujours d'être fixés sur le sort de leurs enfants. Au Mali, la coordination des mouvements de l'Azawad, à savoir les rebelles principalement Touareg du nord du pays, s'engage à paraffer l'accord d'Alger du 1er mars 2015, un document déjà paraffé par le gouvernement malien et la plateforme des groupes d'autodéfense. Le point avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
C'est au nom de la médiation internationale que l'Algérie a informé le gouvernement malien de la décision prise par la coordination des mouvements de l'Azawad qui veut paraffer l'accord d'Alger le 15 avril prochain. Aussitôt informé, le chef du gouvernement malien a réuni les forces vives de la nation, l'opposition et la majorité, plus les acteurs de la société civile. Le gouvernement et la majorité se réjouissent de la décision prise par les belligérants. L'opposition malienne préfère attendre le paraphe avant de se prononcer, le temps aussi de discuter avec sa base. Côté algérien, l'heure est à la préparation de cette cérémonie. Le ministre algérien des Affaires étrangères a envoyé une lettre d'invitation à plusieurs délégations pour assister à la cérémonie du mercredi prochain à Alger, Bamako. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Et côté rebelle, le colonel Hassan Agmedi, secrétaire du Front populaire de l'Azawad, estime qu'il est temps pour les Maliens de s'unir dans l'intérêt de leur pays commun. Un extrait de ses propos à la presse recueillis par Kassim Traoré.
L'appel que je lance aujourd'hui, c'est celui d'aller vers l'avant. Et sans exception, le Mali a besoin de tous ses enfants, de tous ses fils, qu'il résout ses problèmes et qu'il rebâtisse ce que nous tous nous avons détruit. Ce qu'il y a lieu de faire aujourd'hui, c'est de se dire d'abord la vérité. C'est la dire individuellement. Aujourd'hui, il faut que le pays soit rebâti. Et il ne va être rebâti qu'avec ses fils soudés. Il faut que les gens se comprennent. Il faut qu'ils arrêtent de se chamailler. Aujourd'hui, ce pays peut constituer l'armée la plus forte du monde. Si ses fils se retrouvent, ils se disent la vérité et que chacun d'eux se sente malien.
Le colonel Hassan Agmedi, secrétaire du Front populaire de l'Azawad. Côte d'Ivoire, à présent, la justice ivoirienne a remis en liberté Marie-Odette Lorougnon, influente responsable des femmes du Front populaire ivoirien, le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo. Après 6 jours en détention pour trouble à l'ordre public, Madame Lorougnon a été relâchée en même temps que 5 co-accusés. La réaction de son avocat, Maître Toussaint Dako.
Heureux parce que des gens ont retrouvé la liberté. Et puis je suis déçu parce que l'interpellation, la procédure et tous les migmas qui sont passés me désolent. Ils ont été arrêtés, interpellés, conduits devant le procureur sous la base d'un faux rapport produit par la police. Au contact des questions, la réalité était différente du rapport fait par la police qui les a interpellés. Dans le rapport d'interpellation, la police a indiqué que les militants qui étaient venus pour installer la nouvelle direction de la Refondation sont venus s'attaquer à la police, alors que ça n'avait rien à voir. Mais juste pour que l'infraction trouble à l'ordre public se réalise et au finish, on puisse les condamner.
Maître Toussaint Dako, avocat de Madame Lorougnon, joint à Abidjan par Chérubin Dorsil. Au Burkina Faso, le nouveau code électoral qui exclut les partisans de l'ex-président Blaise Compaoré des élections d'octobre prochain continue de susciter des remous. Mais dans l'ensemble, la plupart des partis politiques et des groupes de la société civile approuvent le document. Au micro de Bagassi Koura, on écoute Siaka Koulibaly, un analyste politique à Ouagadougou, qui, lui, est contre ce nouveau code.
Je trouve que ce n'est pas nécessaire de procéder à une exclusion par la loi, alors que la voie normale aurait été la justice. Parce qu'une loi pareille en démocratie n'a aucune justification. Par ailleurs, le texte est contraire à la constitution du pays et à la charte de la transition qui imposait le principe de l'inclusion.
Ceux qui l'ont adopté disent que les gens de l'ancien régime doivent payer.
Et bien sûr. La meilleure façon de le faire, c'est qu'ils passent devant la justice. Parce que par le texte qui a été adopté, on n'a aucun moyen réel de savoir la responsabilité directe des gens. Ce n'est pas le Conseil constitutionnel qui va étudier les crimes de sang et les crimes économiques et établir la responsabilité de ces acteurs-là.
Siaka Koulibaly, un analyste politique à Ouagadougou. Lutte contre l'Ebola, la réputation du Libéria dans le domaine de la corruption suscite beaucoup d'inquiétudes chez les donateurs internationaux et les Libériens eux-mêmes concernant la destination finale des grosses sommes fournies par Monrovia pour lutter contre l'épidémie de fièvre hémorragique. Plus de détails avec Lionel Gaïma.
La communauté internationale a promis quelque 5 milliards de dollars pour aider l'Afrique de l'Ouest à lutter contre l'épidémie et à se remettre de ses effets. Mais au Libéria, les donateurs redoutent que l'argent n'aille pas à ceux qui en ont le plus besoin à cause d'une corruption érigée en système. Le vice-ministre de l'Information, Isaac Jackson, assure que des mesures de précaution ont été prises et que la communauté n'a rien à craindre.
We've been able to put in place some of the best measures.
Nous avons pu mettre en place certaines des meilleures mesures de contrôle pour l'argent alloué à la lutte contre Ebola. Au moment où je vous parle, le ministre de Finances et du Plan, Amara Kone, a mis à défi tous les ministères et agences qui ont reçu des fonds d'avoir une compatibilité rigoureuse, c'est-à-dire de faire en sorte qu'ils puissent dire comment l'argent destiné au combat contre Ebola a été dépensé. Beaucoup des Libériens restent cependant fort sceptiques. Même la famille de la présidente Ellen Johnson Sirleaf n'est pas épargnée par les allégations de concussion. C'est pourquoi ils se félicitent de la décision de l'USAID, l'agence d'aide des États-Unis, de dépêcher une équipe au Libéria pour un audit de ses projets de lutte contre Ebola. L'assistance américaine en Afrique de l'Ouest dans la lutte contre le virus Ebola s'établit à plus de 1,3 milliard de dollars administrés par l'USAID, les centres américains de contrôle des maladies et l'armée américaine. Silas Siakor est le fondateur de SDI, un institut de recherche local qui se penche depuis des années sur la corruption dans les secteurs miniers, forestiers et agricoles. Il estime qu'un audit financier américain sous l'assistance des États-Unis serait une très bonne chose parce que le gouvernement libérien n'est pas le seul à gaspiller les fonds.
En Somalie, le gouvernement a mis à prix les têtes de 11 responsables du groupe islamiste Al-Shabaab, offrant des primes de 100 000 à 250 000 dollars pour leur capture. Le point avec Morgane Guériec.
En tête de liste figure le chef suprême des islamistes somaliens, Ahmed Oumar Diriyé, dit Abu Abaïda, qui a succédé en septembre à Ahmed Abdi Goden, tué par un drone américain. Mogadiscio offre 250 000 dollars pour sa capture. Il est suivi sur la même liste par son adjoint Mahad Warsam Karate, chef des services de renseignement des Shebab, dont la tête est mise à prix pour 150 000 dollars. Les Shebab ont revendiqué de nombreuses attaques en Somalie et au Kenya voisin, dont la dernière en date, le 2 avril, à l'université de Garissa, qui avait fait 148 morts, dont 142 étudiants.
VOA Afrique en direct de Washington.
Et à l'international, conflit au Yémen, deux premiers avions d'aide médicale ont atterri aujourd'hui à Sanaa, la capitale, avec des tonnes d'aide médicale. La veille, le secrétaire général de l'ONU avait lancé un SOS à la communauté internationale pour demander de porter secours aux civils du Yémen et de la Syrie. Et cette situation humanitaire qui se détériore a fait s'alarmer l'UNICEF, qui dit s'attendre à un pic de malnutrition dans les semaines à venir. Écoutons Christophe Boulirac, le porte-parole de l'UNICEF.
Il y a une détérioration globale d'une situation qui était de toute façon caractérisée par une fragilité, une vulnérabilité chronique. Au Yémen, 60% environ de la population vit sous le seuil de pauvreté. Le taux de malnutrition chronique, c'est environ 48%. Et c'est le pays le plus pauvre de la région. Ce qui se passe actuellement, cette escalade dans la violence, affecte les services sociaux, qu'il s'agisse des hôpitaux, qui sont de plus en plus mobilisés, sollicités et qui manquent de matériel. Mais également, oui, on s'attend à un taux de malnutrition.
C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information dans 50 minutes. Bon après-midi à l'écoute de VOA Afrique.
Soyez au cœur de l'info sur